Parlons RH, le HR Talk, en direct de l'événement HR Technologie France.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce deuxième HR Talk organisé par Parlons RH, en direct de l'événement HR Technologie France. Je suis Stéphane Varizella, Content Manager chez Parlons RH. Alors c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième HR Talk. Concrètement et opérationnellement, comment l'IA doit-elle transformer les RH? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec deux invités de marque, Guillaume Vigneron et Ulysse Franco. Bonjour Guillaume Vigneron.
Bonjour.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore, je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous êtes entrepreneur puisque vous avez fondé en 2015 la Super Agence, dont vous êtes aujourd'hui le CEO. Votre agence est spécialisée en rédaction de contenu premium, inbound marketing, inbound recruiting et gamification. À côté de vous, il y a Ulysse Franco. Bonjour Ulysse.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes un expert en transformation RH et vous aussi entrepreneur, puisque vous avez cofondé IGO, le premier cabinet de conseil français spécialisé en People Operation. Alors un grand merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Nous allons parler d'intelligence artificielle, vaste sujet. Il était au cœur de nombreuses discussions en 2023. On a tous entendu parler de ChatGPT, l'IA générative. Alors pourquoi on en parle autant? Eh bien parce que l'IA soulève de nombreuses questions. L'IA fait peur autant qu'elle nous intrigue. Le message est clair. Elle doit transformer radicalement les ressources humaines. Des processus de recrutement automatisés aux évaluations de performance enrichies par les données. En passant aussi par des programmes de formation personnalisés, les promesses sont grandes. Mais, comme dans toute révolution technologique, l'IA en RH n'est pas sans défi. Les questions de confidentialité, d'éthique et d'impact sur le rôle humain dans les RH sont au centre de nos préoccupations. Comment l'IA peut-elle coexister avec l'aspect humain essentiel des ressources humaines? Pouvons-nous nous fier à l'IA pour prendre des décisions justes et équilibrées? Ce sont là certaines des questions cruciales que nous allons explorer aujourd'hui. Tout ça m'amène tout de suite à la première question. Elle est pour vous, Ulysse. Qu'est-ce que l'IA et quel accueil lui réserve le monde des ressources humaines pour le moment?
Oui, bah merci pour cette première question. Alors l'IA, je pense qu'on va en parler après. On parle surtout d'IA générative, mais je laisserai peut-être Guillaume explorer le sujet. Mais comment les RH ont pris le sujet elles ont pris le sujet. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. On est au salon. J'étais là hier pour pas mal de conférences et c'est le sujet qui est ressorti en priorité. Et moi, j'ai remarqué en discutant avec pas mal de DRH que c'est un sujet qu'elles ont envie d'adresser ou qu'ils ont envie d'adresser, qu'ils mettent en place dans leurs entreprises. Nous, notre expérience personnelle, pour être vraiment concret, parce que c'était le thème de ce podcast aussi, il y a énormément d'acculturations qui nous ont été commandées pour savoir qu'est-ce que c'est que l'IA générative, comment ça peut être appliqué au RH, pourquoi les RH devraient s'emparer de ce sujet. Et il y a aussi même des POC, donc des proof of concept, des tests, des prototypes, peu importe comment on les appelle, qui sont lancés principalement dans les grands groupes, parce qu'on travaille principalement avec les grands groupes, mais qui sont des applications très concrètes et qui font gagner un maximum de temps déjà auprès des RH. Donc il y a, pour répondre simplement à ta question, c'est déjà lancé. Je pense qu'il y a bien 50% des entreprises, des grands groupes qui se sont vraiment lancés à fond là-dedans. Et c'est en phase d'exploration et c'est plutôt bien avancé.
Très bien. Je me tourne vers vous maintenant, Guillaume, pour vous poser la même question. Est-ce que vous partagez la vision d'Ulysse?
Oui, tout à fait. Je la partage. J'apporterai peut-être un complément, en tout cas une vision personnelle sur ce qu'est l'IA concrètement quand on aborde le sujet du point de vue de la technologie. Actuellement, on parle beaucoup en fait de GPT. Faut bien comprendre ce que c'est. Hein. Vraiment, le T de GPT veut dire transformer. On est sur des systèmes qui sont des transformateurs de données. Actuellement, on a des données en entrée qui peuvent être des entrées de type du texte, qui peuvent être de la voix, qui peuvent être de l'image. Et on est sur des systèmes qui permettent de transformer cela en d'autres contenus. Donc, ça a un impact énorme forcément sur beaucoup de processus RH. C'était d'ailleurs le sujet de la conférence que j'avais animée hier, notamment avec Benoît Serre, sur le sujet. Donc, l'impact transformatif, il est énorme. Mais quelque part, ce n'est pas si révolutionnaire que ça, en ce sens où on est toujours sur un processus qui permet de transformer de l'information dans une information plus raffinée. C'est pour ça que tous les fantasmes qui sont liés à l'IA, à la comparaison avec la science-fiction, avec Terminator, etc., c'est quand même assez exagéré pour l'instant. Pour l'instant, vraiment, on est sur une nouvelle technologie qui nous permet de travailler différemment et qui va transformer en profondeur la plupart des métiers, en tout cas les métiers qui nécessitent de travailler avec de l'information. Donc oui, c'est en ça où c'est vraiment quelque chose d'absolument percutant pour le domaine. Et on le voit dans le salon, c'est absolument dans toutes les bouches, dans toutes les têtes, dans toutes les discussions. Ce sera vraiment le sujet 2024 à ne pas en douter.
Justement, Guillaume, la transformation n'est-elle pas uniquement mentale pour le moment ? J'entends par là plutôt dans nos têtes que dans nos process.
Absolument. En fait, c'est d'abord l'enjeu, en tout cas pour le domaine RH, est déjà d'avoir une acculturation à cette technologie. L'IA, en fait, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait plusieurs, même dizaines d'années que ça existe à différents domaines. Pour la météo, par exemple, on utilise l'IA depuis très longtemps pour pas mal de systèmes prédictifs. Là, la grande différence, c'est que c'est du langage naturel, en fait, qui nous a apparu avec GPT-3 en novembre 2022 et qui a continué à avancer. Maintenant, c'est du langage naturel. Donc, on n'a plus besoin d'être un expert en informatique pour pouvoir le faire. En gros, Ulysse, n'importe qui peuvent maintenant accéder à des processus de transformation informatique très puissants. Ce qui veut dire que la barrière technique, qui était une barrière très forte avant pour les RH, est maintenant plus une barrière dans les têtes, une barrière mentale. On sait maintenant qu'on est capable de faire des choses vraiment impressionnantes. Maintenant, il va falloir qu'on se forme, il va falloir qu'on change un peu nos paradigmes dans notre manière d'appréhender les RH. Et à partir de là, faire des choses fantastiques. Mais d'abord, accepter que ça arrive et accepter que ça va demander de notre part, à nous, professionnels des RH, un gros, gros changement de paradigme.
C'est très bien. Ulysse, nouvelle question pour vous. Quels sont les processus RH qui peuvent être optimisés grâce à l'IA ?
Alors, il va y en avoir un paquet. Je vais essayer de plutôt faire deux grandes catégories. Pour moi, il y a des quick wins. Les quick wins, ça permet quoi ? Ça permet au département RH d'avoir des résultats rapides et de tester sans forcément avoir besoin de se synchroniser avec la DSI ou de faire des grands chantiers. Donc parmi ces quick wins, il y a un use case que nous, qui est très apprécié, c'est de pouvoir trouver des réponses simples dans des documents complexes. Donc par exemple, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai une convention collective que je n'ai peut-être jamais lue en entier. En tout cas, je suis loin d'être expert par rapport à ma convention collective. Donc on a fait ce test, on a créé un outil avec notre partenaire et on a rentré notre convention collective dans cet outil et on peut lui poser n'importe quelle question. Mais ça peut être des questions du style « je vais être papa dans 2 mois, comment ça se passe par rapport à mon congé parental ?» ou ça peut être « je crée une invention dans mon entreprise, à qui appartient cette invention ?» Et ça, c'est absolument incroyable parce qu'on peut trouver des réponses très rapidement, qu'on soit RH ou même qu'on soit employé. Et l'autre aspect, c'est qu'on peut rajouter différentes briques de priorité, par exemple en mettant les conventions collectives, en mettant des textes de loi ou alors des agreements particuliers. Et là, on va pouvoir donner des réponses très rapidement à des questions qui peuvent être très complexes. Alors que généralement, on attend longtemps ce genre de réponse parce que tout le monde est sous le feu et du coup, on n'a pas ces réponses-là rapides. Et il y a des exemples avec des sujets plus complexes. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est quand on fait un onboarding pour une grande entreprise du CAC 40, la plupart ont onboard des milliers de personnes par an. Beaucoup d'entre elles font un questionnaire de satisfaction de l'onboarding à la fin de l'onboarding. Mais quand on recrute 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes par an, en fait, on ne regarde pas toutes les réponses qui sont dans le questionnaire de satisfaction. Donc là, nous, on a été capable de créer un outil, on va pouvoir dialoguer avec le questionnaire de satisfaction. Et tout simplement, la DRH, voire même le CEO, peut demander dans quelle équipe il y a le meilleur onboarding et pourquoi. Comment l'équipe où il y a le moins bon onboarding pourrait s'inspirer de l'équipe où il y a le meilleur. Et là, on commence à agréger de la data et en fait avoir des réponses extrêmement claires, alors que normalement, ça prendrait des jours, voire même des semaines, de synthétiser tout et de prendre une décision. Donc ça, c'est absolument incroyable.
Très bien. Et en termes de description de poste aussi, ça peut être efficace.
Alors oui, ça c'est un autre use case vraiment qui est prêt à l'emploi et j'invite les DRH, RH qui nous écoutent à peut-être se renseigner, nous contacter ou peu importe, mais c'est vraiment prêt à l'emploi où il y a deux cas d'usage. Soit on va améliorer une job desk qui est existante, donc nous on l'a fait avec certains de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait des job desks qui étaient super. Il y avait des job tests qui n'étaient pas du tout optimisés, qui ne donnaient vraiment pas envie. En tout cas, ce n'était pas harmonisé. Ça, c'est très compliqué à maîtriser. Alors qu'en utilisant l'IA, on est capable d'harmoniser. On sait qu'il va y avoir un titre, un mot sur l'entreprise, etc., les différentes rubriques, voire même des spécificités du style il faut que mon ma job desk elle soit inclusive. Ben, ça, on peut le mettre comme règle dans l'outil IA, donc ça, c'est génial. Et du coup, soit on peut les créer from scratch, donc je donne juste un poste, je donne la description de ma boîte, mais bon, a priori, on la connaît, et le salaire, et ça sort une description qu'on a juste besoin de valider, donc on gagne beaucoup de temps. Soit on peut l'améliorer. Et pour avoir été recruteur et parfois avoir à recruter des métiers que je ne comprenais pas, ou alors qui étaient vraiment nouveaux, par exemple ingénieur système optronique, voilà, bah, ça peut m'aider à faire une job desk qui est sexy pour des ingénieurs système optronique, par exemple.
C'est très clair, Ulysse. Guillaume, j'ai une question pour vous sur la marque employeur. Est-ce qu'elle est, elle aussi, concernée par l'émergence de l'intelligence artificielle ?
Elle est directement concernée à plusieurs titres. Faut bien comprendre qu'une marque employeur, c'est, on va dire, d'abord un premier travail de réflexion sur la culture d'entreprise, sur les pratiques managériales, sur un grand nombre en fait, de marqueurs d'identité d'une entreprise qui, après, doivent être convertis, de mon point de vue, en tout cas, d'agence de communication marque employeur, nécessite d'avoir une matérialisation sous forme de contenu pour pouvoir être accessible, bon, dans notre cas, plutôt par rapport aux candidats, mais également par rapport aux collaborateurs en interne. C'est-à-dire qu'une marque employeur a une dimension interne et externe. La fameuse formule de Thomas Chardin, la marque employeur, c'est ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. On est complètement en ligne avec ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'abord une réflexion sur une entreprise. Là, à mon avis, sur cet aspect-là, sur l'aspect réflectif, ce n'est pas forcément là où l'IA va être la plus pertinente, en tout cas l'IA générative. Elle va par contre être très pertinente dans la concrétisation de ce why, un petit peu, de ces messages de marque employeur, de l'EVP, des personas, sous forme de contenu à destination d'un site carrière, à destination de réseaux sociaux, à destination de documentation pour les candidats éventuellement. Et là, effectivement, on est vraiment sur quelque chose de très impressionnant. Nous, on a fait des premiers tests. Alors, il faut savoir qu'à la super agence, on travaille sur un projet très concret. On a 3 développeurs qui sont mobilisés sur ces aspects-là, sur comment rendre concrète la marque employeur générée par IA à partir de premiers messages qu'on aura identifiés. Et les résultats sont particulièrement encourageants. Surtout, en fait, dans la capacité de l'IA à comprendre la prospective qu'on veut mettre dans les messages. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'intentionnalité est bien comprise, étonnamment bien comprise de la part des modèles qu'on utilise. Alors, pour l'instant, on est sur des modèles qui viennent d'OpenAI, donc très plus connus sous le nom de ChatGPT dans sa version grand public. Nous, on travaille sur la partie plutôt API, donc la partie vraiment technique. Et les résultats qu'on obtient sur Superia, donc sur l'outil qu'on est en train de mettre en place, montrent que oui, il y a véritablement quelque chose d'assez fort, surtout, encore une fois, dans la productivité que ça apporte. C'est-à-dire que c'est souvent très très long en fait, de passer du stade des idées d'une marque employeur au stade de la concrétisation. Alors je pense naturellement au texte en premier. Très rapidement, je pense qu'on va basculer sur sur l'image qui n'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore des petits problèmes, par exemple, sur le texte incrusté. On va également aller, à mon avis, très rapidement sur la vidéo, peut-être sur le son. Désolé, c'est pas une compétition directe par rapport à votre produit, mais en tout cas, c'est vrai que la multimodalité qu'offrent actuellement les larges modèles de langage est assez impressionnante et va complètement transformer la marque employeur dans cette dimension de contenu. Ça, on est sûr et certain, et les premiers tests le montrent. Et on a hâte de déployer ça auprès de nos clients pour que vraiment on puisse avoir des retours d'expérience à grande échelle.
Merci Guillaume, mais je me pose quand même une question par rapport à la marque employeur. Si on la confie à l'IA, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des marques employeur trop similaires qui répondent en fait à tout ce qu'attendent les candidats ?
Alors oui, merci, c'est une très bonne question. Si j'étais un peu provocateur, ce que je suis, je dirais un peu comme font les agences de communication avec les marques employeurs actuelles. Quelque part, on retrouve parfois des messages très similaires. Hein. Vous avez tous en tête « Bienvenue dans la famille », etc. Alors qu'une entreprise, pour moi, ce n'est pas vraiment une famille. Vous voyez, par exemple, actuellement, des marques employeurs qui sont très similaires, en tout cas des messages de marque employeur, même pour des entreprises qui ont des propositions complètement différentes. Donc déjà, l'uniformisation des messages, on la voit avec des agents humains. Donc effectivement, le risque qu'il pourrait y avoir, c'est d'avoir aussi ce manque de, comment dire, de diversité, ce manque d'originalité dans la proposition des messages. Et c'est là où intervient en fait une vraie expertise d'agence, alors pas forcément la nôtre, mais en tout cas une vraie expertise de créateur de contenu, qui est la capacité à créer des prompts vraiment sur mesure. Donc il y a la capacité de faire du prompting, c'est-à-dire vraiment d'envoyer des requêtes très spécifiques alors je dis pas à l'IA, je dis au LLM en fait, au large langage modèle. Donc savoir faire des prompts qui vont vraiment correspondre à l'identité de l'entreprise, ça c'est une vraie première compétence qu'il faudra avoir pour ceux qui vont utiliser l'IA en marque employeur. Et après il y a la partie aussi qu'est-ce qu'on va donner à manger à la marque employeur. En gros, quelles seront les bases de données qu'on va fournir? Est-ce que ce seront, par exemple, le contenu d'un site carrière sur quoi on travaille? Est-ce que ce seront, par exemple, des retours d'expérience de la part de recruteurs? Enfin, on imagine plein de choses. Donc, il y aura aussi il y aura la capacité à faire des prompts, la capacité à nourrir l'intelligence artificielle avec du contenu spécifique à l'entreprise. Et quand on fait ce travail-là, quand on le fait sérieusement, on voit quand même que ce qui en ressort est spécifique à l'entreprise. On est capable d'avoir des différenciations, des messages. Le VP, par exemple, qu'on retire quand on fait des tests sur une marque de grande distribution, je ne vais pas citer, qui est un de nos clients, est très différente de l'EVP qui vient d'une entreprise qui fait de l'hébergement web, par exemple. Donc ça, on le voit. Mais encore une fois, ce n'est pas une question d'IA ou pas IA, c'est une question de compétences, d'expertise en amont. Et si l'IA est bien alimentée par des bons prompts et de la bonne donnée, on a vraiment des résultats qui sont différenciants et ça, c'est le plus important à retenir.
D'accord. On parle beaucoup aussi de la formation, de l'importance de la formation et du développement des compétences pour fidéliser les employés. Donc Ulysse, j'ai une question pour vous. De quelle manière l'IA peut-elle être utilisée pour personnaliser la formation et le développement des compétences?
Oui, je vais commencer par le développement des compétences, que j'ai une anecdote qui me passionne. C'est un cas d'usage qu'on a eu pour un client. C'était vraiment le type de cas d'usage dont on aurait rêvé quand on a lancé ThinkIGO. On travaille avec un grand groupe industriel français, que je ne peux pas citer, mais ils avaient besoin de créer des référentiels. Ils ont toujours besoin de créer des référentiels de compétences pour chacun de leurs emplois. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 emplois dans cette entreprise et c'est avec des emplois très, très, très variés. Donc, on peut parler des différents emplois RH, Talent Acquisition Manager, mais ça peut être approvisionneur, les acheteurs, les commerciaux, enfin bref, il y en a 700, donc je ne vais pas toutes les citer. Et là, l'idée, c'est de pouvoir lister les soft skills et les hard skills pour chacun de ces emplois pour que les employés puissent s'auto-évaluer et du coup pouvoir progresser dans leur carrière petit à petit et qu'on puisse aussi mapper combien de personnes dans ce groupe est très bon en sales, par exemple, ou combien est très bon en recrutement, ou combien est très bon en management. Bref, gestion des compétences à peu près classique, sauf qu'ils ont mis, et je pense que ce n'est pas les seuls, les entreprises mettent des années en fait, à mapper toutes ces compétences-là. Là, en l'occurrence, c'était plus de 3 ans avec 3 personnes à temps plein qui s'occupaient de ça pour mapper 50% de ces 700 emplois, parce que ça bouge tout le temps. Et là, il y a eu quelque chose qui les a chamboulés, c'est que il y a une nouvelle convention collective, donc je passe les détails, mais en gros, il faut tout recommencer. Donc, ils n'ont vraiment pas envie de repasser 3 ans et 3 personnes là-dessus. Et ils ont pris le pari, et je les félicite pour ça, d'expérimenter avec l'IA, en l'occurrence avec nous. Et ce qui est génial, c'est qu'on a créé une solution qui permet, à partir du moment où la solution est développée, il faut quand même la développer, mais qui permet en quelques clics de sortir des compétences, des soft skills et des hard skills pour n'importe quel emploi et avec quelque chose qui est très spécifique parce qu'on utilise justement, on intègre de la donnée, donc en l'occurrence les job desks, pour vraiment sortir les bons soft skills et les bons hard skills pour ces 700 emplois. Et du coup, l'objectif, c'est de le faire en quelques mois versus quelques années. Et du coup, là, on voit plusieurs éléments. Déjà, l'impact business, on entend toujours parler de l'impact business des RH. Bah là, clairement, au niveau du budget, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et l'autre aspect, c'est le fait d'aller beaucoup plus vite sur les tâches rébarbatives. En fait, on le voit beaucoup. J'ai une étude que j'aime beaucoup qui dit que 69% des RH aimeraient passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée et moins sur des tâches rébarbatives. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que Guillaume disait, c'est que en fait, l'IA, c'est une énorme opportunité pour passer moins de temps sur ces tâches-là qui passent qui sont en fait pas très intéressantes en soi de lister toutes ces référentiels de compétences, et plutôt de passer du temps avec les managers pour les valider et après de passer du temps sur d'autres missions. Donc c'est un super cas d'usage, une super opportunité, je trouve, et c'est pas si compliqué à mettre en place par rapport, enfin c'est moins compliqué que de le faire à la main, quoi. Et l'autre aspect sur les formations, il y a une solution que nous on aime beaucoup. Alors c'est un peu spécifique, c'est pour se former à des outils. Donc par exemple SAP, voilà, pas facile forcément quand on connaît pas SAP de se lancer dessus, mais ça peut être Salesforce, ça peut être plein d'outils. Et là l'idée, ça va être tout simplement d'enregistrer les guides d'utilisateurs d'SAP, les guides d'utilisateurs de Salesforce qui sont très costauds, que personne n'a jamais envie de lire. C'est comme les notices d'utilisation de nos magnétoscopes à l'époque, enfin vraiment c'est un enfer, sauf que bah, c'est plus compliqué qu'un magnétoscope SAP. Et du coup, à partir du moment où on intègre ces informations-là, on peut poser n'importe quelle question et on va avoir la réponse. Mais mieux que ça, on va avoir vraiment, on va générer un, étape par étape ce qu'on doit faire. Chose qu'on pourrait trouver dans un forum ou chose qu'on pourrait trouver dans une FAQ. Sauf que la FAQ et le forum, bah, ça s'alimente. Il faut qu'il y ait des ambassadeurs. S'il y a une question qui n'a jamais été posée, bah, en fait, elle peut rester sans réponse pendant des années. Alors que là, en fait, ça se génère à partir d'un document qui est déjà existant, et ça c'est vraiment génial, mais c'est un peu spécifique, c'est pour de la formation à des outils, mais c'est, voilà, c'est un exemple. En tout cas, c'est génial, et moi j'encourage vraiment les RH à s'y intéresser, parce que ça va être hyper hyper bénéfique pour tout le monde, et notamment pour eux.
Effectivement, ça semble très intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la marque employeur. Guillaume, une question cette fois-ci sur l'expérience candidat, comment l'IA peut-elle l'améliorer ?
Merci de revenir sur ce point de l'expérience candidat. Très, très souvent, quand on aborde le sujet de la marque employeur, on l'aborde par le biais du contenu et de la matérialisation des messages, hein, de l'EVP notamment. Et la partie marque employeur, c'est, on va dire, l'autre composante essentielle du marque employeur. Dans le cas spécifique de l'utilisation de l'IA, il faut bien comprendre qu'on parle très souvent de l'importance d'avoir une expérience candidat inoubliable. On emploie souvent des mots un petit peu dithyrambiques, voilà, extraordinaire, des effets waouh, etc. Concrètement, quand on observe vraiment ce que c'est une bonne expérience candidat, c'est déjà un processus de sélection et de réponse qui soit rapide. Donc la rapidité, ça c'est vraiment demandé par les candidats de façon manifeste dans toutes les études. Et surtout des réponses claires aux questions que se posent les candidats. Et par rapport à ces deux choses, l'IA est un outil absolument fantastique. Pour la première, sur la rapidité de traitement, là, je vais vraiment reprendre ce que disait Ulysse. Voilà, c'est la capacité à pouvoir proposer rapidement des réponses, traiter rapidement des informations. Ça, c'est primordial dans un parcours. Donc, très concrètement, ça permet par exemple sur une navigation de site carrière d'avoir accès à de l'information contextuelle, d'avoir accès à des processus de dépôt de CV qui soient rendus encore plus rapides, à une analyse, une pré-analyse qui soit rendue possible grâce à du parsing qui utilise d'ailleurs de l'IA même depuis assez longtemps. Voilà, toute cette expérience, on va dire, en ligne, que ce soit d'ailleurs sur un site carrière, mais également éventuellement sur des réseaux sociaux, grâce à des outils gamifiés. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'IA a, on va dire, by design, un gros, gros apport pour les candidats. Donc, rapidité du traitement et également accès à l'information pour avoir des réponses concrètes. Là, encore une fois, je reprends l'exemple d'Ulysse avec ses conventions collectives. Voilà, la grande force des large language models, c'est être capable d'absorber une quantité de texte. Je parle de texte parce que c'est ce qui est plus rébarbatif. Hein. On adore les podcasts, écouter des podcasts, évidemment. Mais lire des longues pages de texte, c'est vraiment rébarbatif. L'outil est capable d'intégrer, alors je dirais pas de comprendre, hein, faut pas se leurrer, il est simplement capable d'intégrer une grande quantité de texte. Là, maintenant, avec les nouvelles limitations d'OpenAI, on est sur des centaines de mégabits de texte, ce qui signifie on peut lui faire manger un texte de 300, quand je dis manger, c'est intégrer évidemment, un texte de 300-400 pages sans aucune difficulté, et après être capable de lui poser des questions et d'avoir une réponse sourcée dans le document initial. Et ben voilà, si un candidat a des questions très concrètes, oui, mais moi j'habite à Reims et en fait j'ai une famille, mais je ne peux pas bouger, etc. Vous voyez, des questions auxquelles il faudrait quasiment avoir un être humain en face pour répondre. Ben, si le document est assez bien travaillé, on aura la capacité de répondre aux candidats et donc d'avoir la deuxième composante de l'expérience candidat la plus optimisée. Voilà, on est capable de vous dire oui, effectivement, on a mis en place une politique de télétravail qui pourra vous aider. On a on travaille avec telle ou telle technologie quand on est un développeur. On a tel ou tel système de rémunération quand on est commercial. On a telle ou telle certification à avoir quand on travaille en tant que cariste sur un entrepôt. Tout est absolument possible. En fait, la plus grande difficulté qu'on aura pour vraiment proposer une expérience candidat incroyable, ce sera de vraiment bien travailler en amont. Je pense que c'est là, en fait, on oublie un petit peu le véritable enjeu de l'IA, c'est le travail en amont. Le travail préparatoire va être extrêmement important. L'entraînement, on appelle ça l'entraînement et la fourniture de data de qualité. Et à partir de là, oui, l'expérience, selon moi, va être complètement chamboulée dans le bon sens. Heureusement.
Et côté expérience collaborateur, comment est-ce qu'ils réagissent à l'intégration de l'IA dans les RH aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résistance ou des inquiétudes ?
Alors, effectivement, ça, c'est l'autre pendant. Pour l'instant, j'ai essentiellement parlé de la partie candidat parce que c'est celle déjà que je maîtrise le mieux de par l'expérience avec la super agence. Sur l'expérience collaborateur, évidemment, là, il y a quand même plus de réticence. C'était vraiment un sujet qui a été abordé hier lors de la conférence que j'animais. Il y a d'un côté un espoir de pouvoir effectivement diminuer les charges les tâches les plus pénibles. C'est un petit peu comme au début de la robotisation dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on présentait ça comme étant on enlevait les tâches pénibles, les tâches qui étaient mortifères. Bon, là, on peut se dire, on a tous des trucs où on se dit, voilà, on passe énormément de temps dessus. Si une IA pouvait le faire et le faire presque aussi bien que moi, on serait tous gagnants. Donc ça, c'est le beau côté de la médaille. Et derrière, la question, c'est ça s'arrêtera où ? Jusqu'où, en fait, on considère que c'est une tâche qui nécessite d'avoir mon apport à moi en tant que collaborateur ? Et quelle est la confiance que je peux accorder à mon management pour dire, je vais toujours faire en sorte que de défendre toi en tant que collaborateur versus l'intérêt, le gain de productivité énorme qui va être obtenu avec l'outil. Donc là, en fait, on est vraiment beaucoup moins sur une question technique que sur une question de dialogue social. C'est ça qui va être vraiment l'enjeu au niveau de l'expérience collaborateur, c'est d'avoir un discours clair en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que manager sur quelle est la proposition sociale, quel est le pacte social qu'on va réinventer sur ces nouvelles pratiques qui vont forcément bousculer absolument tout le monde. Et là, il faut être vraiment très, très clair par rapport à ça. Et j'attends beaucoup de la part des professionnels RH de prendre le sujet à bras-le-corps.
Alors, comme pour toute révolution, il y a aussi des défis, notamment éthiques. Ulysse, quels sont ces principaux défis éthiques et pratiques liés à l'utilisation de l'IA en RH ?
Ouais, alors, pour le coup, je vais pas me lancer dans une liste à la Prévert. Moi, j'aimerais prendre un petit peu de recul comme ce que tu as fait, Guillaume. En fait, moi, je le vois comme Internet. Quand Internet est arrivé, on s'est posé ces questions éthiques, pas éthiques. Oui, mais on va tous être connectés, on va avoir des informations. Mais en fait, ça a apporté beaucoup plus de choses positives. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus parce que sinon, ça nous prend une trop grosse charge mentale. Il y a eu des défis techniques par rapport à Internet. RGPD est arrivé, on a trouvé des solutions, en fait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que là, concrètement, sans parler de boule de cristal, mais moi, avec mon vécu de ce que je vois auprès de mes clients quand on leur propose des solutions IA, c'est que ça apporte déjà un effet positif immédiat. Il va y avoir peut-être des choix éthiques ou des enjeux éthiques, mais qui seront à gérer quand on les rencontrera. En réalité, pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y en a pas. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'en ai pas vu. Et je pense que si quelqu'un en a vu, qu'il partage son expérience, mais on fantasme un peu ça, je pense. Occupons-nous des problèmes à la limite quand ils commencent à émerger, pas quand on se les prend en plein fouet, mais quand on les voit arriver d'un peu loin. Pour l'instant, en fait, on les imagine. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça va avoir un impact énorme pour tous. Et même pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, sur le côté, il va y avoir des métiers qui vont être transformés. Mais les métiers qui sont transformés, ça fait 30 ans maintenant que les métiers sont transformés et qu'il faut être capable de s'adapter. Les RH et les managers sont responsables d'accompagner ces métiers qui se transforment. Et là, effectivement, c'est Jérémy Lamry qui en parlait hier. Il y a une accélération, donc on doit être capable juste d'accompagner en étant un peu plus rapide dans l'exécution, mais au final, ça ne va pas non plus être du quart de seconde, hein, je vous rassure. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je pense que voilà, concrètement, l'aspect est extrêmement positif. Et voilà, pourquoi les RH doivent s'en occuper, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie de Salesforce qui disait qu'il y a plus de 70% des 15-25 ans qui utilisent l'IA quotidiennement. Et il y a trois quarts de ces 70%-là qui l'utilisent au boulot. Donc en fait, les gens l'ont déjà pris en main et il faut juste avoir conscience de ça et pouvoir se l'approprier et pas en avoir peur. Quoi.
Et justement, pour se l'approprier, quelles sont les formations nécessaires pour les professionnels des RH pour permettre d'intégrer efficacement l'IA dans leur pratique?
Je pense que la première étape, et nous, c'est ce qu'on a proposé à plusieurs groupes, Safran, Mars, etc., c'est une acculturation. Une acculturation pour trois raisons. La première, c'est, je vous ai dit, que leurs clients internes l'utilisent et vont l'utiliser. La deuxième, c'est que les RH vont être upfront par rapport à ça, c'est-à-dire il va y avoir des nouveaux SIRH qui vont sortir, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont sortir, il va y avoir besoin d'accompagner ces talents, et du coup, c'est le rôle des HR. Et je pense que c'est comme ça, c'est ça le plus important de désacraliser. Donc la première étape, avoir une bonne session d'acculturation, une heure pour expliquer ce que c'est, mais aussi de voir des cas d'usage. Nous, dans nos acculturations, pas de boucle de cristal, on explique globalement comment ça fonctionne et on montre comment ça fonctionne. Ça veut dire on montre des cas d'usage, comment générer une job desk, comment générer des référentiels de compétences, etc. Et du coup, on voit l'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est des ateliers où en fait on map les différents process de nos interlocuteurs, ça peut être RH ou pas RH d'ailleurs, et on les aide à dire « Ah bah tu vois, là ça pourrait être optimisé par l'IA. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu y passes 2 heures tous les jours ou toutes les semaines, et du coup c'est quelque chose qui pourrait être optimisé. Donc là, ils commencent à se dire « Ah ok, mais en fait, sur tout ce que je fais, les 3 tâches prioritaires qui pourraient être optimisées grâce à l'IA, c'est ça, ça, ça. » Donc encore une fois, on désacralise et ça permet aussi aux RH de récolter des potentiels cas d'usage. Et après, c'est l'expérimentation. En fait, je pense que le futur, ce n'est pas tellement que tout le monde utilise l'IA, ChatGPT, etc. Bon, il y aura des cas d'usage qui seront intéressants, mais c'est qu'il va y avoir des outils qui seront priorisés par les RH, par un COMEX, etc. Et où ils vont demander à des agences comme celle de Guillaume ou comme la mienne de développer un outil dessus. Donc la personne, en fait, les utilisateurs ne se rendront même plus compte que c'est l'IA. De même que sur Internet, on ne se dit pas « Ah oui, c'est la technologie, c'est le web ». Non, en fait, on pose notre question, on a la réponse et on passe à autre chose. Et ça va être comme ça, je pense aussi.
Un petit bémol peut-être, parce que comme on est toujours bien, bien indigné avec Ulysse, sur la question, la comparaison avec Internet, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que dans les usages, maintenant, ça a été complètement acquis. On utilise Google, donc on utilise de l'IA. On utilise Google, en fait, hein, le référencement des pages, le classement des pages, j'utilise l'IA, donc on l'utilise depuis très, très longtemps. Par contre, sur l'appropriation et la montée en acculturation des gens, il ne faut pas oublier que moi, j'étais là au début d'Internet, hein, dans la fin des années 90, début 2000, et l'évolution était limitée par l'aspect technologique, ce qui fait qu'on a eu quand même à peu près, on va dire, 10-15 ans avant de voir Internet véritablement changer le cours de nos vies. Là, la différence qu'il y a fondamentalement avec les nouvelles technologies de LLM, de l'IA générative, c'est que ça va extrêmement vite, mais extrêmement vite. En gros, c'est un peu comme si Internet, on était passé de pas d'Internet du tout à Internet en un an. Et là, on a vu quand même ce qui s'est passé à cause d'Internet, notamment sur la haine en ligne, sur la cybercriminalité, ce genre de choses. Donc, il y a quand même un petit peu des points de vigilance à avoir quand on travaille dans le domaine RH, dans pas mal de domaines d'ailleurs. J'irais même jusqu'à dire, y compris par rapport à la démocratie, par rapport à la façon de faire de la politique, du journalisme, etc. Il y a quand même le côté rapidité qui, moi, personnellement, m'a surpris. Je suis les technos depuis 25-30 ans, on va dire. Jamais j'avais vu un déploiement aussi rapide. Hein. On rappelait hier les chiffres, l'appropriation de ChatGPT, c'était 100 millions d'utilisateurs en une dizaine de jours, je crois. Donc, c'est la plus forte appropriation jamais enregistrée devant Instagram, devant Snapchat, devant TikTok. Donc ça, c'est quand même attention, parce que ça, et là encore une fois, je reprends l'exemple d'Ulysse, les employés qui arrivent au bureau avec leur propre device connecté, etc., ça va vraiment, le principe de rapidité, d'ultra rapidité, est vraiment époustouflant, et c'est là où peut y avoir des loups dans lesquels il y aura peut-être des problèmes d'éthique à soulever à un moment donné. Voilà, c'était juste le petit point de remarque que je voulais faire par rapport à ça.
Merci pour cette précision. Et donc maintenant, je vais vous demander de sortir votre boule de cristal, on en parlait tout à l'heure. Guillaume, quelles seront selon vous les prochaines grandes évolutions et l'impact futur de l'IA dans le domaine des ressources humaines ?
Alors, il y aura très probablement énormément d'évolutions, je pense même à court terme. Je pense qu'on verra des évolutions technologiques sur l'IA elle-même arriver. On est en train de parler d'AGI pour l'instant, donc Artificial General Intelligence, c'est-à-dire des IA qui auront la capacité d'agir au même niveau qu'un être humain de QI moyen, voire moyen plus. Donc c'est quand même, là pour le coup, on remplacerait véritablement un être humain par une IA. On n'y est pas encore, certains disent que c'est du fantasme. Mark Zuckerberg l'a annoncé là, récemment avec Llama 3. On ne sait pas, mais en tout cas, on sait que ça, pour le coup, ça va encore une fois très très vite. Donc il y aura des évolutions technologiques. Dans le terme, vraiment, pour être très concret sur les champs d'application, ce que je vois, en tout cas ce que j'observe de la littérature et des actualités, c'est la mise à disposition d'un assistant, d'un petit boîtier. Ou, alors, est-ce que ce sera sous forme d'application dans un téléphone portable ou ce sera un boîtier indépendant ? Moi, je pense que c'est plutôt un boîtier indépendant qui sera vraiment consacré qu'au travail et dans lequel on aura vraiment un assistant qui sera là pour nous aider sur tous les aspects RH du quotidien, sur des questions sur la paye, des questions et un boîtier qui sera aussi sécurisé, auquel on puisse parler sans avoir de crainte que ce soit éventuellement utilisé par des managers mal intentionnés, ce genre de choses. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est vraiment, c'était présenté au CES de Las Vegas. Il y a un engouement de la part de pas mal d'acteurs du marché là-dessus. Donc oui, je pense qu'on aura à un moment donné une sorte. Vous connaissez un peu le film Her? Où il y a Joaquin Phoenix en fait, qui parle avec une voix artificielle qui est celle de Scarlett Johansson. Alors, j'espère qu'on aura la voix de Scarlett Johansson pour l'assistant, en tout cas le choix. Mais le type d'assistant personnalisé pour les RH, ça, je pense que ça va avoir le jour assez rapidement. Le deuxième aspect, c'est vraiment sur... c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur, que j'avais évoqué hier avec Benoît Serre, c'est les datas. Dans une entreprise, on pense souvent que la principale richesse, c'est les flux monétaires. Bon, c'est très important, l'argent. Mais les datas, ça va devenir de plus en plus important. Et la question principale qui se pose sur les modèles qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire principalement OpenAI, mais ça peut être aussi même des modèles éthiques, hein, comme Claude de Anthropic, c'est quand même, on ne sait pas où va la data. On ne sait pas vraiment d'où vient la data pour qu'il y ait permis l'entraînement des données. Et on ne sait pas où va la data une fois qu'on alimente l'IA avec nos informations. Et ça, pour un individu, moi personnellement, je trouve ça problématique de ne pas savoir où vont mes données. Beaucoup de gens s'en fichent pas mal. Hein. On voit l'utilisation des smartphones, la partie private data, ce n'est pas forcément ce qui inquiète le plus les gens. Mais au niveau d'une corporation, une entreprise, on a besoin de savoir si on injecte un fichier Excel qui contient des salaires, des trucs comme ça, par exemple, hyper simple, qui va être capable de lire derrière ? Et ça, tant qu'on n'aura pas la réponse, ça va forcément constituer un frein pour les dirigeants. Moi, dans mon entreprise, je n'aurais pas envie que mes employés utilisent de l'information confidentielle sur mes clients et qu'après, quelque part, comme c'est une boîte américaine, que ce soit utilisée contre moi. Bon, et j'imagine que des entreprises de la défense, par exemple, des Thales, des Nexter, ils n'ont absolument pas envie que ça passe par un système. Ce n'est pas d'ailleurs que ce soit seulement américain, c'est qu'on ne sait pas maîtriser la data. Donc l'évolution, ce sera probablement la mise à disposition de LLM local, géré localement par les DSI, avec un encadrement des data, de ce qui rentre, de ce qui ressort. Voilà, pour essayer un petit peu de ne pas rentrer dans du grand n'importe quoi, dans, excusez-moi l'expression, un gros foutoir. Je pense vraiment qu'on aura un gros foutoir au niveau des data avec les LLM. Et pour éviter que ça se passe, on va travailler sur des... Il faut quand même parler d'un modèle qui a tout explosé là récemment, ça s'appelle Mixtral, qui est le modèle de l'entreprise française Mistral, qui est très performant, quasiment aussi performant que peut l'être ChatGPT. qui est beaucoup moins gourmand en plus en termes d'espace et de consommation de paramètres. Et donc voilà, donc on a non seulement ce sera un impératif data, et en plus, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a une solution française, Cocorico, pour une fois qu'on est bon en IA, c'est quand même à noter, et qui va, à mon avis, constituer un axe intéressant de développement pour les entreprises dans leur manipulation de l'IA générative.
D'accord. Et Ulysse, maintenant, je me tourne vers vous pour la même question. Quelles seront, selon vous, les prochaines grandes évolutions de l'IA dans le domaine des RH ?
Alors, moi, je suis très mauvais en boule de cristal, mais encore une fois, plutôt de manière empirique. Moi, j'ai une question pour les RH qui nous écoutent. C'est quel est le process où vous êtes dit l'année dernière, en 2023, j'y ai passé un temps de fou, ça me saoule. Si j'avais une baguette magique pour que ce soit plus simple et que j'ai pas à le faire, qu'est-ce que ce serait ? Voilà, vous avez la réponse. C'est ça qui va être révolutionné par l'IA. Et la seule barrière à ce que ce soit le cas, c'est qu'il y ait un mandat fort de la direction, des DRH, peu importe de qui, mais d'un sponsor important, pour dire eh ben, on va faire gagner du temps à nos équipes, pas pour qu'il y ait moins de ces équipes ou pour réduire la charge ou le nombre d'emplois, mais pour améliorer l'expérience employée, soit des équipes RH, soit des équipes des autres collaborateurs qui sont accompagnés par ces équipes RH. Donc c'est vraiment une ambition d'être moderne et d'utiliser tout simplement les outils qui sont à notre portée. Je fais une comparaison nulle, parce que j'adore les comparaisons nulles, mais imaginez que vous êtes une tribu à la préhistoire et vous vous rendez compte qu'on peut utiliser un arc et que la tribu à côté, qu'elle soit amie ou ennemie, utilise des arcs. La question, c'est combien de temps vous allez vous poser la question, est-ce que j'utilise cet arc ou pas ? Ou alors quelque chose de moins guerrier, mais de planter une graine et que ça pousse. Donc c'est simplement, il y a une technologie qui est devant nous, à quel point on a l'ambition d'amener notre petite communauté un peu plus loin et de faire du bien à notre communauté. Je pense que c'est vraiment ça.
Parlons RH, le HR Talk.
Alors pour finir ce HR Talk, vous le savez, comme nous sommes en direct de l'événement HR Technologie France, nous avons quelques questions auditeurs sélectionnées par l'équipe social média de Parlons RH. Allons-y pour cette première question.
Pensez-vous que l'intelligence artificielle risque de rendre les professionnels des RH obsolètes ?
Je peux y répondre. Je peux pas répondre parce que c'est une question qui à mon avis, à horizon peut-être 10 ans. Je pense que la question est plutôt là à court terme. Est-ce qu'il y a vraiment des professionnels des RH qui risquent de voir leur métier disparaître ? La réponse est probablement oui. Certains métiers ont déjà été identifiés comme étant entre guillemets à risque de disparition, notamment parce qu'ils sont très facilement automatisables dans leur grande partie. Donc c'est vrai qu'on pense pas mal à la gestion de paye, c'est un domaine qui revient souvent. C'est pas un domaine RH qui revient souvent forcément dans les discussions, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est facile à automatiser. Alors ça ne veut pas dire que toute la paye, qu'il n'y aura plus aucun gestionnaire de paye, il y aura toujours un gestionnaire de paye. Mais à mon avis, une équipe qui nécessite actuellement 10 personnes pour faire un travail pourra être réduite peut-être à 2-3. Et donc, il y aura vraiment une diminution massive sur ces processus-là. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on est toujours sur une question, c'est un outil. Un outil a toujours besoin d'être utilisé par quelqu'un, donc, par définition. Encore une fois, j'ai parlé d'une grosse réduction. Une disparition totale, on aura toujours besoin d'avoir des personnes peut-être qui vont moins se concentrer sur des tâches administratives. La partie administrative des RH va très probablement être la première à être prise en charge, on va dire, par l'IA, ou menacée, ça dépend comment on le voit. Ça va recentrer le rôle des RRH beaucoup plus sur la prise en compte de la réalité humaine des métiers. Être une bonne une personne qui est là pour les questions managériales, pour les questions on parle beaucoup de vie pro, vie perso, c'est aussi le rôle d'ARH de pouvoir amener des solutions. Donc voilà, ce qu'on dit souvent, c'est que ça va surtout rendre obsolète la partie administrative et comme disait Ulysse, un peu casse-bonbon, quoi. C'est vrai que personne n'aime forcément travailler sur la paperasse, qu'on appelle la paperasse. Les RH seront toujours là. On aura toujours besoin d'avoir des humains qui fassent de l'intermédiation. Il faut pour une intermédiation, ça se fait difficilement avec une machine. ça sera plus facilement avec, on acceptera ça plus facilement de la part d'un être humain. Donc voilà, je pense que ça se réduira à ça.
Je peux aussi partager un avis. Alors, petite anecdote, j'ai dîné avec ma grand-mère hier et qui me pose pendant le dîner, est-ce que tu crois, toi, que le métavers, ça va prendre plus de place, etc. Donc déjà, première question, je lui dis, est-ce qu'on parle de la même chose? Tu parles bien du métavers? Elle dit oui, oui. Et en fait, ma réponse a été, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a envie d'être avec des humains. C'est-à-dire qu'on a envie de sortir dehors, d'aller dans un parc, etc. On aura toujours envie de ça. Et je pense que pour l'IA, c'est pareil. Ça va nous aider, mais vraiment, ce sera ce qui est perçu comme presque superflu qui va être automatisé. Mais on aura toujours envie de se retrouver, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît son métier ou quelqu'un qui peut nous coacher, etc. Donc franchement, je suis assez optimiste, mais je suis quelqu'un d'optimiste aussi de manière générale. Et l'autre aspect, je pense que c'est... excusez-moi, quand je pars sur une idée, après j'oublie le reste, mais non, je pense que, ah oui, voilà, c'est ça, important, j'ai une théorie qui est vraiment importante là-dessus, c'est que en tant que RH et le futur des RH, je pense, ce ne sera plus un rôle où on va éteindre des feux. Donc éteindre des feux, c'est quoi? C'est en gros, il faut gérer la paye, au secours, il faut gérer la paye, ou alors quelqu'un qui doit être accompagné pour telle et telle chose. Il y a des fois des choses où c'est important, mais il y a des fois des choses où en fait c'est juste que la personne a, oui, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Bah en fait c'est marqué dans le process, mais tu l'as pas lu, donc on doit quand même te répondre rapidement. Donc c'est ça aussi, éteindre des feux. Et quand on éteint des feux, bah parfois on se brûle. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un burn-out aussi à côté HR et qui est important, parce que c'est sous-staffé pour éteindre ces feux. Et je pense que le futur de la fonction RH, c'est plus tellement d'éteindre des feux, ou en tout cas un curseur à déplacer, mais plutôt pour créer un environnement où les feux ne s'allument pas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour moi, le futur des RH, c'est créer un environnement dans lequel c'est tellement clair pour les utilisateurs, moi je les appelle comme ça, mais en gros les employés, les managers, etc., qui ne vont pas aller poser la question à leur fonction RH pour des questions qui ne sont pas importantes. Des questions qui sont importantes, mais il y a des questions qui ne sont pas importantes et on doit y répondre avec la même vélocité. Donc pour moi, ce rôle, il est vraiment là, et au contraire, les RH, ça peut, enfin l'IA, pardon, ça peut permettre aux RH de créer cet écosystème-là qui va être plus intelligent, plus automatisé aussi, mais pour des choses à faible valeur ajoutée. Comme ça, on peut se concentrer sur les rapports humains à forte valeur ajoutée. Donc voilà, très optimiste pour la suite.
Est-ce que ce n'est pas éthiquement douteux de laisser les algorithmes décider du sort des employés?
Alors, c'est pas éthiquement douteux, c'est éthiquement irresponsable de faire ça. Vraiment, hein, c'est pas du tout la direction dans laquelle, en tout cas, j'ai envie que le monde professionnel évolue. Ceci étant, ça existe déjà. En Asie, par exemple, il y a eu des cas documentés où vraiment c'était l'algorithme qui décidait par rapport à des critères de performance. Donc tout remontait, était automatisé. C'était assez effrayant. Je crois que c'était à Singapour que c'est arrivé. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des cas de managers qui ont licencié en envoyant un SMS à plusieurs dizaines de personnes. Donc les personnes qui manquent d'éthique, c'est les humains à la base. L'IA n'est pas questionnable éthiquement. C'est toujours qu'est-ce que l'humain, il ne faut jamais oublier, hein, un marteau, ce n'est pas éthique. Un marteau, si je l'utilise pour réparer la table, bah, c'est éthiquement OK. Si je l'utilise pour taper sur la figure de quelqu'un, c'est éthiquement pas OK. Donc un outil n'est jamais questionnable du point de vue éthique, c'est l'humain qui a derrière. Et là, en l'occurrence, pour la partie vraiment pour cette question sur les RH, derrière, ça va être l'éthique des dirigeants. Si les dirigeants demandent d'utiliser l'IA, on va dire, pour faire des choses innommables, ils le feront, quoi. Si les managers justement prennent leurs responsabilités, sont capables d'imposer ce qu'on appelle des constitutions éthiques, hein, pour les IA. D'ailleurs, il faut savoir que dans les prochains jobs qui vont être créés à l'horizon 2030, un des qui arrive en top trends, c'est éthicien IA. Alors, s'il y a des auditeurs qui veulent se positionner sur, par exemple, qui ont fait des études en philosophie, en psychologie, et qui se demandent un peu quels sont les débouchés derrière, il faut savoir qu'on va commencer à beaucoup s'intéresser au sujet. Google avait donné un petit peu la bonne direction par rapport à ça, mais ils ont viré leur éthicien IA quand il a commencé à émettre des réserves sur ce qu'il faisait. Donc oui, il y aura vraiment le besoin d'avoir des éthiciens et d'avoir des managers, des top managers qui soient vraiment irréprochables de ce point de vue-là, Et puis surtout, après, il faudra des lois, simplement. Il faudra aller légiférer. Parce que moi, j'attends pas. Je suis pas né de la dernière pluie, on va dire. Je suis quasiment sûr qu'il y aura des abus qui vont être faits. Bah, si la loi est là et si le législateur arrive et est capable de dire vous n'avez pas le droit d'utiliser l'IA, etc. Après, comment le prouver, ça sera autre chose. Mais voilà, donc il y aura les trois strates. Il y aura, à mon avis, une strate vraiment éthique, humaine, individuelle, une strate managériale et une strate législative.
Et de mon côté, je pense que ce qui est important, c'est que effectivement, il pourra toujours y avoir des gens qui utilisent mal les outils, entre guillemets. Mais maintenant, on est rentré dans une ère, et je pense qu'on l'a assez martelé, je pense qu'on peut en mettre une couche, mais on le sait maintenant en tant que RH, c'est que il y a les talents, ils choisissent leur entreprise, en tout cas pour les talents qui travaillent l'école blanc, on va dire, quand même pour montrer qu'il peut y avoir une différence en fonction des secteurs et de l'industrie. Mais si il y a un manager ou un directeur, une directrice qui utilise mal cet outil qu'est l'IA et que les gens s'en aperçoivent, ils vont tout simplement faire leur choix, potentiellement partir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent, c'est pour ça que le marché des talents est toujours aussi tendu. Donc pareil, je ne me fais pas de soucis. Les entreprises ont bien compris qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Pas parce que techniquement, ils ne peuvent pas le faire, mais c'est juste parce qu'en fait, ils y perdraient au change. Donc pour moi, ça ne me pose pas... Encore une fois, je suis optimiste.
Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent intégrer l'IA dans leur département RH ?
Je me lance en premier pour celle-là. Nous, ce qu'on conseille... Alors, la version la plus moderne, tout à l'heure, je parlais de l'ambition. Ça dépend de votre ambition. Si c'est une ambition de découvrir l'acculturation, c'est parfait. Une heure de webinar devant tout un COMEX ou alors devant toute une population HR, ça permet de voir un peu quelle est la tendance et l'appétence des gens. Ambition middle, ça va être effectivement des workshops, voire même une implémentation sur un sujet où vous savez, celui-là en 2023, il nous a vraiment cassé les bonbons et on va écouter, on va le tester et nous, on est aussi capable de dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Et l'ambition la plus forte, c'est comme le font certains groupes dans le luxe, pour ne pas les citer, c'est de créer un lab IA ou un accélérateur IA, enfin peu importe comment on l'appelle. Donc c'est une équipe qui va être capable de deux choses. La première chose, c'est d'acculturer les différents métiers à l'IA, comment ça peut être utilisé, comment ça peut les aider comme ça en marketing, en R&D, en RH, on est au même niveau. Et la deuxième chose, ça va être de prioriser les différents cas d'usage qui sont remontés par les équipes, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Une entreprise, elle a besoin de prioriser. Moi, je suis un grand fan de la priorisation pour ne pas se lancer dans tout et n'importe quoi. Mais on peut prioriser et du coup se dire, en 2024, on lance 3 POC. Et on va communiquer autour de ces POC, vraiment d'avoir un accompagnement autour de ces POC-là. Donc l'aspect le plus moderne et le plus avancé pour moi, c'est de créer un espèce de lab IA. Et pareil, c'est quelque chose sur lequel on peut vous aider parce qu'on a mis en place certains incubateurs avant que l'IA arrive. Et du coup, un incubateur IA, c'est tout à fait possible, c'est le même principe.
Oui, Guillaume. Je voulais juste apporter un complément à ce que disait Lee. Je suis d'accord avec tout ça, effectivement. L'acculturation, c'est une première étape, à mon avis, déjà, pour éviter de partir dans le fantasme dans un sens comme dans l'autre. Alors, la dramatisation ou le déni. Voilà. C'est un peu les deux côtés du précipice sur lesquels, à mon avis, déjà, c'est important de pouvoir évoluer. De ne pas dire n'importe quoi. Déjà, quand on est RH, on a quand même une responsabilité de parler avec pas mal de gens. Si c'est possible que ce département soit capable de dire les choses en vérité, et pas sur la base de fantasmes ou de croyances, à mon avis, c'est déjà une première chose. Je pense que ça va même au-delà de l'acculturation. Il faut même commencer à mettre en place des formations. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de formateurs sur le sujet. Nous, on commence à en proposer à la super agence. Mais actuellement, il n'y a pas une pléthore d'offres. Forcément, c'est très rapide et très nouveau. Donc, vraiment, acculturation, formation. Je rajouterais aussi à ce qu'a dit Ulysse, vraiment des études d'impact. Sur les métiers. Je pense que c'est important vraiment de pouvoir dresser assez vite un panorama du degré en fait de bouleversement qu'il y aura dans différents départements. Vraiment, comme on a dit tout à l'heure, tous les métiers ne seront pas impactés de la même façon. Des métiers ne seront absolument pas, quasiment pas impactés. Les métiers seront considérablement impactés. Donc ça, c'est important de le savoir. Hein. Le RH, c'est un département central dans une entreprise. Pour être capable justement d'anticiper un peu les besoins en compétences, les besoins en formation, les besoins également peut-être en mobilité interne. Donc tout ça, en fait, ça nécessite vraiment un travail pour l'instant. En 2024, On est vraiment là-dessus, hein, vraiment étudier les conséquences et puis travailler aussi, essayer de travailler assez vite sur du concret et puis avoir des retours d'expérience en interne, des feedbacks collaborateurs. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à travailler et encore une fois travailler sur du concret.
Est-ce que vous avez des exemples concrets d'outils d'IA qui améliorent l'efficacité ou la justesse du recrutement ?
Allez, Ulysse.
On en a parlé tout à l'heure. Il y en a trois qui me viennent en tête. Le premier, c'est harmonisation des job desks. C'est hyper important. Encore une fois, j'ai vu certaines entreprises avec des job desks géniales, des job desks pas géniales. C'est super difficile à gérer. Là, on a un outil IA qui permet d'avoir une expérience unique en termes, déjà, le premier step, c'est de découvrir la job desk. Alors, il y a un step avant qui est la marque employeur, mais le premier step vraiment concret, on rentre dans le terrain de l'entreprise, ça va être ça. Donc ça, c'est très facile. L'autre aspect qui peut être intéressant pour le recrutement, c'est... alors, il y en a deux autres. Le premier, c'est pareil, quand on doit recruter un ingénieur système optronique, que ce soit pour nous ou pour un de nos collègues qui est malade, c'est compliqué. Et puis, il faut arriver à bien le vendre, hein, le job d'ingénieur système optronique, quand on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu le travail en tant que recruteur. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on sait que les recruteurs, c'est les premiers ambassadeurs, c'est les gatekeepers des meilleurs talents. Et du coup, on est capable de créer une liste de questions. Déjà, d'avoir une fiche pour le recruteur avec qu'est-ce qu'un ingénieur système optronique dans cette telle boîte, quelles sont les 10 questions que je peux lui poser, quelles sont les réponses qui peuvent être attendues. Et ça, c'est génial parce que ça permet au recruteur d'être plus à l'aise plus rapidement. Et la dernière chose qu'on aime bien faire, c'est quand on arrive dans les entreprises pour améliorer l'expérience candidat, une des choses qu'on fait quasiment à chaque fois, c'est de créer un guide candidat. C'est-à-dire que quand je suis candidat pour la boîte X, dès que je rentre dans le process, je reçois un petit guide brandé qui est super canon avec le mot du CEO, des mots sur la vision, les chiffres, les initiatives internes, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on faisait à la main. Mais aujourd'hui, on peut intégrer toutes ces informations qu'on crée à la main, l'intégrer dans un chatbot IA et sur le site carrière, poser la question, par exemple, si je veux m'intégrer dans une initiative en dehors de mon métier, qu'est-ce que je peux faire? Et bien là, l'IA va pouvoir répondre. J'ai un rendez-vous avec un premier rendez-vous avec le ou la RH, par exemple demain, quel est le dress code de cette entreprise? L'IA peut répondre. J'ai un entretien avec un manager, un dernier entretien, sur quoi on va m'attendre? L'IA peut répondre. Et là, en termes d'expérience employée, expérience candidat, pardon, c'est génial.
Très bien. Oui, Guillaume?
Non, je pense qu'Ulysse a couvert l'intégralité en fait du processus de recrutement et les apports que l'IA peut avoir. Moi, il y a toujours une chose qui m'a dans ma pratique personnelle de ChatGPT, d'autres LLM, ce qui est très impressionnant, c'est la capacité de monter en compétence soi-même sur des choses qu'on pensait savoir faire correctement, mais qui finalement peuvent être perfectibles. Par exemple, sur savoir dérouler un entretien. Bon, la plupart des recruteurs en fait ont eu des formations, ont appris ça dans leur formation, mais il y a effectivement parfois des questions spécifiques à certains métiers, des choses qu'on. Enfin, il faut toujours être un petit peu à jour sur son métier, et c'est souvent assez incroyable en fait la capacité que offrent ces outils à être toujours au top niveau sur les meilleures pratiques, sur la façon de s'adresser aux candidats, surtout aussi sur l'évolution du métier qu'il y a eu avec l'inclusion, avec la diversité, avec des choses qui sont un petit peu, voilà, pour des personnes qui pratiquent le métier depuis 10-15 ans, utiliser des LLM, c'est vraiment hyper intéressant pour être toujours pertinent dans son métier, voilà, et avoir un côté très beaucoup plus pertinent dans son approche de l'expérience candidat. Donc tout ça et tout ce qu'a dit Ulysse était déjà très complet.
Guillaume, Ulysse, un grand merci à tous les deux pour votre participation à ce deuxième HR Talk, cette fois-ci dédié à l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Merci aussi à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur les ondes de Parlons RH.
Parlons RH, le HR Talk, en direct de l'événement HR Technologie France.